Madame Vérel, je voudrais tout d'abord remercier à mon tour nos panélistes pour leurs exposés et les idées qu'ils ont partagées avec nous. Je remercie également tous les participants pour l'intérêt qu'ils accordent aux conventions de Genève et surtout les questions qu'ils ont soulevées. Le débat a été riche. Il a fourni beaucoup de matière pour approfondir la réflexion sur les voies et moyens pour mettre en pratique ces conventions. L'objectif ultime étant de protéger les civils et minimiser les souffrances durant les conflits. Cependant, un constat s'impose de cette discussion de ce matin. Ce sont les difficultés qui entourent la préservation de la vie et la dignité humaine en situation de conflit, qui ne sont pas nécessairement le résultat, comme ça a été dit et répété, de l'absence de règles régissant les guerres, mais du non-respect de ces règles. Il existe donc un gap, pour ne pas dire un décalage troublant, entre le droit international humanitaire et les faits sur le terrain. Par ailleurs, les échanges ont mis en exergue les bonnes pratiques qui permettent de combler les lacunes identifiées et améliorer la vie de millions de personnes qui doivent bénéficier de la protection en vertu du droit international humanitaire. Un accent a été mis sur le rôle des États dans l'exercice de leur influence pour assurer le respect du droit international humanitaire. Cela peut contribuer à faire évoluer la volonté politique dans la bonne direction. Ici, je suis tout à fait d'accord avec M. Englin, comme quoi, même en temps de lutte contre le terrorisme, il faut qu'il y ait le respect du droit international humanitaire. La lutte contre le terrorisme ne doit nullement justifier la violation des conventions de Genève. À l'opposé, nous constatons avec regret que les acteurs non étatiques persistent dans leur violation du droit international humanitaire. Il est donc temps pour que la communauté internationale, qui a une responsabilité pour garantir la mise en œuvre des conventions de Genève, impose l'obligation de reddition des comptes à tous les acteurs non étatiques et leurs leaders à divers niveaux, militaires et politiques. Et là, de nouveau, je suis d'accord avec M. Englund, ce n'est pas seulement les hommes sur le terrain, mais également tout le chaîne de commandement militaire et civil qui doit être responsable. L'impunité de ces acteurs non étatiques verserait dans la banalisation de leurs violations, de l'importance de les responsabiliser pour leurs actes et surtout dire pas d'impunité face au droit international humanitaire. Ensemble, je peux dire, nous pouvons faire la différence en faveur de nombreux hommes et femmes et enfants qui vivent dans la souffrance au milieu des conflits armés. Je voudrais également faire deux observations, dire que nous sommes tout à fait d'accord avec Mme O'Hara quand il a souligné la nécessité de la coopération, la complémentarité tout d'abord entre la Convention de 49 et la Convention de 51 sur les réfugiés et l'impératif de coopération entre le Haut Commissariat des réfugiés et la communauté humanitaire. C'est grâce à cette coopération, la cohérence de leurs actions que nous pouvons assurer le plus large soutien et protection pour les civils. Je voudrais également ajouter, suite aux questions qui ont été posées, que le droit international humanitaire n'a pas vocation à régler les guerres, à régler les conflits, ou à apporter des solutions aux causes de ces conflits, mais à apporter la protection et l'espoir et le soutien aux populations civiles. Voilà, je voudrais terminer en vous remerciant tous pour votre aimable attention, votre participation, et je vous donne rendez-vous cet après-midi à 15h dans cette même salle pour l'événement sur la transition de la phase des secours aux activités de développement. Encore une fois, merci aux panélistes, Madame la modérateur et aux participants. La séance est levée.
Very good. Excellent summary. Thank you.